is a song that comes from Tanzania.
Bonjour, bonjour, lectrices et lecteurs. Bonjour, auditrices et auditeurs de Livres et Amis pour cette émission du mercredi 12 octobre 2022. L'événement, c'est le cas de le dire, de la semaine écoulée sur le plan littéraire, c'est l'attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux. Évidemment, c'est un événement que la reconnaissance d'une femme écrivaine engagée qui défend depuis bien longtemps les droits des femmes, précisément dans les romans qu'elle a écrits, des romans qui ont quelquefois été décriés pour la pauvreté de leur style et de leurs idées. Alors j'aurais bien fait aujourd'hui une présentation de l'événement d'Annie Ernaux, roman paru en 2000. Mais je préfère vous renvoyer à notre dernière émission consacrée à Annie Ernaux. C'était la rediffusion le 31 août de « Regarde les lumières, mon amour ». Et puis, vous conseillez deux films proches de ce livre, l'événement. D'abord, l'adaptation de l'événement par Audrey Diwan, le film sorti en 2021. Et puis, un autre film qui va sortir en novembre, Annie Colère de Blandine Lenoir, qui va donc sortir en novembre. Ça rappelle les combats du MLAC pour choisir la cause des femmes. Nous y reviendrons, bien entendu, mais c'est déjà intéressant de le mentionner maintenant. Alors, cette semaine, ce sera le week-end prochain, la fête de la science et la fête de l'architecture, avec de nombreuses animations à Marseille comme ailleurs. Et cette semaine, notre lecture, c'est Coucoum, de Michel Jean. Coucoum, un joli petit mot qui veut dire grand-mère en inou. Michel Jean, en effet, écrit des romans centrés sur les inous, ces communautés de peuples premiers, les Amérindiens du Canada, les Amérindiens du Québec, même précisément. Et Michel Jean, il a des origines dans la communauté de Mashteuniatch, qui se trouve justement sur les bords du lac Saint-Jean. Alors, en québécois, on disait dans le temps Pointe Bleue et on dit toujours le lac Saint-Jean. En fait, en inou, on dit Mashteuniatch et le nom est passé dans la toponymie, puisque c'est ce qui figure maintenant sur les cartes. Et le lac Saint-Jean, dans la langue inoue traditionnelle, ça s'appelle Pekuakami. Donc ce lac Saint-Jean immense dont on aura à reparler tout à l'heure, c'est Pekuakami. Et les rivières qui l'entourent, c'est le domaine de chasse et le domaine de nomadisme de ces peuples inoues qui appellent leur terre Nitassinan. Nitassinan, c'est tout le nord du Québec, c'est aussi le Labrador, et c'est donc le lieu de vie des populations inoues auxquelles les ancêtres de Michel Jean appartenaient. Et parmi ses ancêtres, une femme, Almanda ou Manda, qui dans le roman qui lui est consacré s'appelle Coucoum, c'est-à-dire grand-mère. Les livres de Michel Jean, alors bon, Michel Jean, si vous voulez, d'abord, il est né en 1960, il est journaliste, écrivain, donc québécois et d'origine inoue, et il écrit des livres et plus spécifiquement des romans depuis 2008. Il a d'abord été édité, bien sûr, au Québec, sous un certain nombre de titres. Et puis, avec le succès, un grand nombre de ses livres ont été réédités sous des titres, disons, un petit peu plus parlants pour les Européens, peut-être, qui sont en général des prénoms. Donc, il y a Amoun, qui est un livre collectif qui a été écrit avec d'autres écrivains québécois. Maïkan. Il y a aussi Atouk, qui est consacré aux personnes, enfin toutes ces personnes inoues qui vivaient de la chasse et de la nature, puisque Atouk, ça veut dire l'orignal. Et donc celui qui nous intéresse, Coucoum. Je voudrais pas parler de Michel Jean sans parler aussi de Joséphine Bacon et de Naomi Fontaine, qui sont deux femmes écrivains également inoues, Naomi Fontaine, c'est une jeune femme qui est née en 1987. On lira peut-être de ses romans bientôt, mais en tout cas, j'aime beaucoup Naomi Fontaine, à la fois le personnage et l'écrivain, puisqu'elle aussi, elle consacre ses œuvres à la population inoue et aux problèmes que connaissent maintenant justement les Inuits et qu'ils connaissent, disons, depuis le début du XXe siècle, depuis que leurs territoires ont été, si on peut dire, colonisés par, en effet, les activités économiques modernes qui ont désorganisé totalement leur vie traditionnelle. Alors, au lieu de lire le livre, donc le roman « Kukum », dans son ordre chronologique, je vais d'abord aller y pêcher quelques épisodes, des épisodes de la vie du personnage et de tous ceux qui l'entourent, puisque en fait, quand on a commencé à s'intéresser à la population Inuit, comme aux autres peuples amérindiens de l'Amérique du Nord, c'est parce que il y avait eu un certain nombre de scandales qui avaient été révélés sur ce qu'avaient justement subi ces peuples premiers. Et ce qu'ils ont subi, c'est bien sûr la détérioration totale de leur cadre de vie pour des raisons économiques, comme on l'a vu tout à l'heure, on va y revenir. Mais c'est aussi et surtout peut-être l'enlèvement des enfants pour leur éducation dans des pensionnats religieux. Ceci non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Australie, etc. Donc, première lecture, le pensionnat.
Les années ont passé et j'en retiens des images de grisailles. En nous obligeant à rester à pointe bleue, ils ont voulu faire de nous des gens comme eux. Nomades dépossédés, nous ne pouvions être que ce que nous étions, des apatrides. Après nos terres, ils ont pris la seule chose qui nous restait, nos enfants. Un matin, quatre hydravions sont apparus à l'horizon. Ils ont fait un tour au-dessus de Pointe-Bleue, balançant leurs ailes dans le ciel. Puis ils ont piqué et ont amerri à Pequakami, juste en face de chez nous. Les pilotes ont dirigé vers la rive leurs appareils qui dansaient sur l'eau en grondant. Au même moment, des policiers de la gendarmerie royale du Canada arrivaient en camion par le chemin de Robertval. Des fonctionnaires fédéraux les précédaient dans une grosse berline noire comme un corbeau. Ils ont garé face aux avions. Un officier est descendu de l'auto et il a ordonné à tout le monde de se rassembler. Je suis le sergent Leroux. Nous sommes ici pour emmener les enfants au pensionnat. Le Canada va leur fournir une éducation respectable. Les gens ont entouré l'officier et le père Jodoin, le curé de la paroisse, qui l'accompagnait. Le sergent avait une voix de stentor. Ses paroles résonnaient comme le tonnerre. « Tous les enfants de 6 à 15 ans vont aller à l'école. Préparez vos affaires. Les avions partent dans une heure. » Les policiers se sont dispersés dans le village, allant de maison en maison. Certains parents refusaient de laisser la police prendre leurs petits. Le ton montait parfois. Les armes des agents étaient bien visibles. À un moment, le fonctionnaire a élevé la voix. C'était un homme à la silhouette plutôt frêle, vêtu d'un costume marron qui le serrait un peu trop. Il portait des lunettes cerclées de métal et sa voix claquait avec une froideur qui glaçait le sang. « Vous n'avez pas d'argent pour les éduquer et les nourrir comme ils en ont le droit. Regardez-les. Vos enfants ne savent ni lire ni écrire. Ils sont maigres. Ils ont l'air de vrais sauvages. » Au pensionnat, on va les nourrir et les loger convenablement. Ils vont apprendre à lire et à écrire. Ce sont des religieux qui vont s'en charger, c'est mieux pour eux ainsi. Vous n'avez pas le droit de nous prendre nos enfants, a dit Antonio au policier. Si vous refusez, c'est l'armée qui va les emmener, a lancé le fonctionnaire. N'essayez pas de jouer au plus fin avec le gouvernement. Vous n'avez pas le choix. Les Indiens doivent apprendre à lire comme les autres Canadiens. C'est aussi simple que ça. Il est temps, même pour les sauvages, de devenir modernes. Mais beaucoup de parents ont protesté. Les policiers commençaient à devenir nerveux et ils gardaient la main sur leurs armes. L'homme en soutane, qui s'était tenu tranquille depuis le début, a pris la parole. Il a insisté sur le fait que l'Église allait s'occuper des enfants. Vous ne voulez pas vous opposer à la volonté de Dieu et à la bonne Sainte Anne, j'espère, a-t-il dit de sa voix suave. Sainte Anne est notre patronne. Moi-même, je m'en suis trouvée ébranlée. Les policiers ont emmené en canot les jeunes jusqu'aux avions. Nous ne savions rien de Fort-Georges, leur destination. Le prêtre nous avait expliqué que c'était une île située en territoire Cree, à la limite de celui des Inuits, au bout de la grande rivière. Les Innus connaissaient ce cours d'eau qui se jette dans la mer du Nord, mais aucun d'entre nous n'était jamais allé jusqu'à cet endroit, situé à des centaines de kilomètres de Pointe Bleue. Le lendemain, un calme lourd régnait. Essayez d'imaginer un village vidé de ses enfants. Les mois ont passé, avec lenteur, sur le bord de Pequakami. Un hiver plus morne et triste encore que les précédents. Nous n'avions aucune nouvelle des petits. En dépit de l'intervention du prêtre, beaucoup de parents s'en voulaient de les avoir laissés partir. Mais il était trop tard pour les regrets. Thomas continuait de chasser autour de Pointe Bleue. Même si le gibier se faisait de plus en plus rare, toutes les terres avaient été défrichées et il fallait désormais faire des distances importantes pour trouver de la forêt. De mon côté, je me plongeais dans l'artisanat pour oublier. Au mois de juin, les avions sont revenus et tout le village a couru vers la plage. Les enfants avaient les cheveux coupés, ils portaient des vêtements de blanc et dans leur regard, quelque chose avait disparu.
L'horreur de la déportation des enfants, qui est maintenant l'objet de recherches universitaires, ces pensionnats de blanchiment des enfants dès le début du XXe siècle et jusque dans les années 60 et 70, c'est une constante de ce que dénoncent les écrivains amérindiens et en particulier ici les romanciers innus. L'arrachement des enfants à leur famille, leur séjour dans des pensionnats très éloignés, ça nous paraît complètement inimaginable. C'est ce qui a été révélé et abandonné seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand justement des Amérindiens éduqués ont pu protester de façon organisée contre le phénomène et contre les institutions qu'il avait mis en place. Alors, la violence, bien sûr, du déplacement des enfants et de leur éducation dans des pensionnats religieux, c'est quelque chose d'extrême. Mais ça ne fait que confirmer la violence de ce qui est imposé aux populations innues dans le cadre, disons, de la modernisation de la vie contemporaine. Alors, vous avez pu entendre que Françoise a une voix encore pire que la mienne aujourd'hui. Moi, ça commence à se tasser. Et elle, ça commence. Alors, je vais, pour une fois, reprendre une lecture à sa place. Donc, je vais vous parler de « Avant ». Dans Koukoum, on a en effet un petit chapitre qui est consacré à avant, et il s'agit de avant les barrages, puisque en fait la destruction de la vie traditionnelle des populations amérindiennes est surtout le fait d'évolutions économiques très globales. Au cours du XXe siècle, le Grand Nord devient un Eldorado exploitable pour son bois et pour son eau essentiellement. Les barrages et les usines de fabrication de pulpe de bois pour le papier se multiplient. Donc écoutons encore Koukoum qui nous parle de « avant les barrages ». C'est difficile d'expliquer le territoire d'avant. Le bois d'avant les coupes à blanc. La Péribonka, c'est la rivière principale qui alimente le lac, la Péribonka d'avant les barrages. Il faut imaginer une forêt sautant d'une montagne à l'autre jusqu'au-delà de l'horizon. Visualiser cet océan végétal balayé par le vent, réchauffé par le soleil. Un monde où la vie et la mort se disputent la préséance et au milieu duquel coule, entre des berges sablonneuses ou des falaises austères, une rivière qui ressemble à un fleuve. C'est ardu à expliquer parce que cela n'existe plus. Les usines à papier ont dévoré la forêt. La Péribonka a été soumise et souillée, d'abord par la Drave, puis par les barrages qui ont avalé ses chutes impétueuses et créé des réservoirs dont l'eau nourrit maintenant les centrales électriques. Alors en passant, donc la Drave, c'est ce qu'on appelle, c'est le nom québécois de ce qu'on appelle en Europe le flottage du bois. Une fois qu'il est coupé, Les grumes sont transportées sur la rivière, enfin à l'époque, hein, dans les années 30, 50, 60. Alors évidemment, la drave, puisque ça encombre la totalité du fleuve, ça empêche complètement les Indiens de le remonter ou de le descendre en pirogue ou en canot. Les passes dangereuses, où mes enfants sont nés, où j'ai élevé ma famille, où Thomas et moi nous sommes aimés si souvent, ont disparu, engloutis sous des tonnes d'eau. Sorte d'Atlantide inoue, ce lieu n'existe plus que dans les souvenirs des vieux comme moi, et il disparaîtra pour de bon avec nous. Oui, ça nous rappelle, nous, moins loin que nous, la disparition des villages du Verdon, par exemple. Bientôt, comme s'effaceront les chemins de portage tracés avec patience par des générations de nomades. Tout ce savoir s'évanouira des mémoires où il vit encore. Il ne reste que Pekuakami. Nos jeunes le voient. Donc je vous rappelle, hein, Pekuakami, c'est le lac Saint-Jean. Nos jeunes le voient, respirent son odeur, entendent son chant. Ils y pêchent les wananish et le doré. Ils apprécient ces longues plages coupées de rochers. Le lac émerveille toujours par sa taille et par sa beauté. Et grâce à lui, Nitassinan reste concret pour eux et pour moi aussi. Donc, bien sûr, les éléments du paysage sont toujours en place, même si la forêt est peu à peu détruite. C'est vrai que quand on va vers le Grand Nord, on trouve encore des centaines de kilomètres de forêt. Mais Nitassinan, justement, la terre des Innus, c'est quand même assez proche des villes. C'est au nord de Québec et au nord de Chicoutimi et au nord du lac Saint-Jean. Alors, revenons sur quelques traditions de la population. Par exemple, ici, un chapitre plus joyeux qu'on pourrait, attribuer aussi bien à un écrivain innu qu'à un écrivain du Québec. C'est les sucres d'érable, la tire. On va faire de la nourriture des neiges. Il va nous falloir de gros paniers. Thomas et son père avaient déposé de grands morceaux d'écorce sur la neige devant Christine et moi. J'ignorais de quoi les hommes parlaient. Christine m'a prise par le bras. « Viens m'aider. » Donc, dans ce chapitre, on voit se mettre en place un certain nombre de personnages qui sont tout simplement les membres de la famille de Koukoum. Il y a son mari, sa belle-sœur, son beau-père et tous ces personnages, membres d'un groupe amérindien, continuent les traditions. Ici donc, la tire. Nous nous sommes mis à l'ouvrage et pendant que nous confectionnions les paniers, les contenants, ma belle-sœur m'a expliqué ce qu'était la nourriture des neiges, une jolie expression que je n'avais jamais entendue. Il nous a fallu quelques jours pour en venir à bout. Le soleil se couchait plus tard, les jours rallongeaient, et cela nous a facilité la tâche. Pour chacun des paniers, Malek a taillé des planchettes dans des bouts de bois. Puis, avec une hache, il a percé des fentes dans le tronc des érables tout autour du campement. Quand il jugeait que l'entaille avait la profondeur suffisante, il y insérait une des planchettes et plaçait un panier dessous. En peu de temps, la sève translucide, la sève des érables bien sûr, a commencé à s'écouler, tombant goutte à goutte dans nos récipients d'écorce. Deux fois par jour, il fallait vider le précieux liquide dans de grands chaudrons, à travers un tissu de coton, pour en retirer les saletés. Thomas et Daniel ont construit un cadre avec des troncs d'épinettes auxquels ils ont accroché les chaudrons remplis d'eau d'érable, et on a allumé en dessous un grand feu. La sève a commencé à frémir, puis à bouillir. Quand le liquide menaçait de déborder, Christine y plongeait une branche de sapin. Si le niveau de l'eau baissait trop, on la transférait dans un autre chaudron jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul sur le feu, contenant toute l'eau d'érable concentrée par l'ébullition. Cela durait une journée entière. En réduisant, le liquide prenait une belle couleur ambrée et répandait des parfums de sucre tout autour du campement. De temps en temps, Christine enroulait une petite quantité de sirop autour d'un bâton et le déroulait sur la neige pour en vérifier la consistance.
Vers la fin, elle a ajouté un brin de moelle d'orignal. Ça donne du goût, a-t-elle dit. Puis, satisfaite du résultat, elle a retiré la marmite des flammes. La tire était prête. Tout le monde s'est réuni. Christine a déposé sur la neige des bandes de sirop qui, sous l'effet du froid, se figeaient. Je n'avais jamais rien goûté de tel et les autres ont dû le remarquer car ils souriaient en me regardant. Chaque culture possède ses rites, mais peu importe la couleur de leur peau ou de leur origine, manger offre aux humains une occasion de rassemblement et de partage. Christine alignait les filets de liquide magique tirés d'un arbre qui, sous la main des Inuits, se transformait en miel au goût d'érable. Quand on a eu presque tout fini, elle a brassé avec vigueur ce qui restait de sirop jusqu'à ce qu'il commence à se cristalliser et forme une substance granuleuse d'un brin doux qu'elle a versé dans de petits paniers. Nous aurions du sucre jusqu'à l'hiver suivant. Lorsque j'ai eu ma famille, j'ai fait de la nourriture d'hiver, chaque fois que les conditions le permettaient. Il fallait des jours longs et chauds, mais des nuits encore froides pour que l'eau des érables coule suffisamment. Les enfants participaient et cela devenait une activité familiale que tous aimaient, d'autant plus qu'elle annonçait le printemps et le retour vers le lac. Les jeunes coupaient le bois pour alimenter les flammes, ils aidaient à la collecte de l'eau d'érable et s'amusaient à chasser les écureuils trop curieux qui risquaient de renverser les paniers au pied des arbres. J'ai le souvenir des sourires et des regards brillants autour du feu et les éclats de rire aussi. La vie en forêt imposait ses exigences, mais chaque plaisir y semblait décuplé. Plus personne chez nous ne fait de nourriture des neiges. On achète le sirop et le sucre d'érable au marché. C'est bon, mais pas autant que celui que nous faisions ensemble. Alors, si vous allez au Québec, vous trouverez des boîtes, des grosses boîtes de conserve qui contiennent du sirop d'érable. Pour les touristes, il y a aussi du sirop d'érable dans des bouteilles en verre. Mais ce que les Québécois consomment, c'est le sirop d'érable qui est dans les boîtes. Et c'est fabriqué, bien sûr, dans des petites usines artisanales qui vont tirer l'eau d'érable et puis la faire bouillir, un petit peu comme le sirop batterie aux Antilles. Enfin, il n'empêche qu'on continue à en consommer du sirop d'érable et qu'on soit montréalais ou québécois, on continue à aller au mois de février faire la tire dans les bois, sur les champs de neige. Et c'est toujours autant une façon, en effet, de se retrouver et de rigoler ensemble et de faire des galipettes dans la neige pour les enfants, de continuer aussi à poursuivre les écureuils ou les petits animaux qui, quand même, vivent encore, même dans les petites forêts qui entourent les grandes villes. Alors voilà, c'est Koukoum, et Koukoum nous raconte sa vie. On va revenir à sa vie de façon un petit peu plus chronologique maintenant. On va revenir à l'origine de son histoire et on va voir le récit de sa rencontre avec le jeune Indien qui l'a séduite. Mais d'abord, alors qu'elle a presque 100 ans, elle nous montre le lac. Ce lac qui est donc le lac Saint-Jean et que tout le monde connaît. Tu veux lire ?
Essayer.
Alors, Françoise va essayer de lire. Non, c'est pas long.
Une mer au milieu des arbres, de l'eau à perte de vue, grise ou bleue selon les humeurs du ciel, traversée de courants glacés. Ce lac est à la fois beau et effrayant, démesuré, et la vie est aussi fragile qu'ardente. Le soleil monte dans la brume du matin, mais le sable reste encore imprégné de la fraîcheur de la nuit. Depuis combien de temps suis-je assise face à Pequakami ? Mille taches sombres dansent entre les vagues et cancanent avec insolence. La forêt est un univers de dissimulation et de silence. Proies et prédateurs y rivalisent d'habileté pour se fondre dans le décor. Pourtant, le vent porte le vacarme des oiseaux migrateurs bien avant qu'ils se montrent dans le ciel, et rien ne semble pouvoir contenir leur jacassement. Ces outardes apparaissent au début de mes souvenirs avec Thomas. Nous étions partis depuis 3 jours, ramant vers le nord-est, sans nous éloigner de la sécurité des berges. À droite, l'eau. À gauche, une ligne de sable et des rochers se dressant devant la forêt. J'évoluais entre deux mondes, plongé dans une griserie que je n'avais jamais éprouvée. Quand le soleil déclinait, nous accostions dans une baie abritée du vent. Thomas montait le campement. Je l'aidais du mieux que je pouvais et en le mitraillant de questions, mais lui se contentait de sourire. Avec le temps, j'ai compris que pour apprendre, il fallait regarder et écouter. Rien ne servait de demander. Ce soir-là, il s'est assis sur les talons et a placé l'oiseau qu'il venait d'abattre sur ses genoux, une bête bien grasse dont il a entrepris d'arracher les plumes en s'attaquant d'abord aux plus grosses. C'est un travail qui exige de la minutie, car si on se dépêche, le bout se casse et reste planté dans la chair. Prendre le temps, c'est souvent comme ça dans les bois. Une fois l'animal débarrassé de son plumage, il l'a passé dans le feu pour brûler le duvet. Ensuite, avec la lame de son couteau, il a gratté la peau sans l'abîmer, elle et son précieux gras. Puis, il a suspendu l'outarde au-dessus des flammes pour la faire cuire. J'ai préparé du thé et nous avons mangé sur le sable face au lac noir, sous un ciel étoilé. Je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Mais à ce moment précis, j'ai eu la conviction que tout irait bien, que j'avais eu raison de me fier à mon instinct. Il parlait à peine le français, et moi, pas encore l'inou et moun. Mais ce soir-là, sur la plage, enveloppé des arômes de viande grillée, du haut de mes 15 ans, pour la première fois de mon existence, je me sentais à ma place. J'ignore comme l'histoire de notre peuple se terminera. Mais pour moi, elle commence par ce repas entre la forêt et le lac.
Donc ça, c'est le premier souvenir de Koukoum avec donc son amoureux du peuple Innu. Et on va voir après notre pause musicale comment elle l'a rencontré. Vous allez donc entendre un chant Innu accompagné du tambour qui est l'instrument le plus courant de la musique Innu. Merci, Majdouline.
I could
Voilà, donc notre Inou se met à parler et nous allons reprendre la parole ou du moins essayer. Alors effectivement, on a un petit peu le rhume toutes les deux, donc je vais essayer de continuer à la fois les présentations et les lectures. Et si à nouveau je tombe en panne, eh bien quand même je demanderai à Françoise de me relayer. Mais là, pour l'instant, elle a pas tout à fait la voix suffisante pour continuer. Alors, revenons donc aux origines de la vie inoue de notre héroïne. On l'appelle Koukoum, elle s'appelle Manda, ou plutôt Almanda. Elle est née dans une famille de fermiers, de colons d'origine européenne au Québec. Elle mène une vie difficile avec un oncle et une tante qui l'ont, disons, adoptée et élevée après la mort de ses parents. On ne sait pas très bien si ses parents sont morts pendant le trajet en venant d'Europe ou juste en arrivant. En tout cas, ils venaient d'une région pauvre de l'Irlande et ils n'ont choisi l'exil que pour des raisons de pauvreté. En arrivant au Québec, ils trouvent également une vie difficile. Donc, la vie des Indiens que Manda ou Koukoum va connaître ensuite, finalement, c'est ce qu'elle dira. Ça ne la change guère au niveau de la difficulté du quotidien. Ça ne la change guère de ce qu'elle connaissait chez son oncle et sa tante fermier. Elle nous dit par exemple « Vivre à la ferme relevait du sacerdoce. Les agriculteurs s'imaginaient que leurs terres les protégeaient de la sauvagerie. En fait, elle en faisait des esclaves. Les enfants travaillaient comme les adultes. Je trayais les vaches le matin avant de partir à l'école et à mon retour, en fin de journée. J'aimais bien m'occuper des vaches, je leur parlais, on se comprenait bien. Et l'été, je les emmenais dans les champs. Mais c'était dur. On était pauvres, il faisait froid. Le dimanche, nous allions à l'église, qui n'était guère qu'un simple bâtiment de planches. Et le village se développait autour de cette église et de quelques cabanes. » Alors, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que, en surveillant son troupeau de vaches, notre jeune Almanda rencontre un bel Amérindien, Thomas. Et Thomas, malgré son peu de pratique du français, séduit Almanda et en fait, elle est surtout subjuguée par le fait que, bien qu'il n'ait que 3 ans de plus qu'elle, il a une sérénité tout à fait frappante. Donc, elle va partir avec lui, avec bien sûr l'accord de son oncle et de sa tante. Elle va partir pour se marier avec lui, à 16 ans en fait, après que sa tante lui ait dit « Es-tu folle, Almanda ?» Ma tante était une fable humble et travailleuse. Je ne l'avais jamais entendue hausser le ton. « Tu n'es pas pour marier un Indien. Tu sais comment ils sont, les Indiens. Ils arrachent le bois dans les bois. Toi, tu n'es pas habituée à ça. Tu n'as aucun bon sens, ma fille. » Il fallait, j'imagine, un peu de folie pour prendre le bois avec un quasi-inconnu et pire, un sauvage. Je vais m'y faire et ils vont m'apprendre la langue. De toute façon, ma tante, regardez-nous. C'est pas la vie de château ici non plus. On n'a plus de viande depuis 2 semaines et on se contente de la galette de sarrasin à table. Et puis, vous le savez, je n'aurai pas de dot à offrir pour me marier. Alors, quel est mon avenir ici ? Donc, sans avenir dans sa communauté de fermiers et de villageois, Almanda, en effet, quitte le village et s'en va avec Thomas. Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'arrivée au village de Thomas ? Le clan des Siméons était constitué de son père, Malek, de son frère, Daniel, et de ses sœurs, Christine et Marie. Chacun avait sa tante. Thomas était l'aîné de la famille et cela se sentait. À part Thomas et Christine, personne ne parlait français. La conversation s'est résumée à quelques mots à peine. Malek, le père, était un homme de petite taille, au visage usé, aux mains noueuses, mais au regard qui avait gardé la brillance dont Thomas avait hérité. Marie et Christine portaient des jupes amples à motifs fleuris et des chemises à gros carreaux. Elles avaient toutes deux un foulard noué autour du cou et une lourde croix de métal qui pendait. Leurs cheveux enroulés de chaque côté de la tête formaient des coques imposantes sur lesquelles elles avaient enfoncé des bonnets de feutre noirs et rouges, vifs, décorés de perles de verre. Thomas m'a montré la tente. À l'intérieur, un épais tapis de sapin frais recouvrait le sol. « C'est pas grand, ai-je laissé échapper. » Christine m'a jeté un coup d'œil dans lequel j'ai lu un mélange de curiosité et de méfiance. Avec le recul, je réalise comment mon attitude a pu sembler étrange, tant pour ma famille que pour celle de Thomas. Mais enivrée par les images de forêt à perte de vue que Thomas avait fait naître en moi, j'étais convaincue de n'avoir aucun avenir dans notre ancien village de fermiers, et où, de toute façon, rien ne changerait jamais. Cette idée m'était insupportable. De fait, notre modeste maison de planche a disparu, mais même si l'oncle et la tante ne sont plus là, même s'ils reposent dans le petit cimetière du village, les vaches pestent encore dans leurs anciens champs, et matin et soir, quelqu'un s'en occupe. Qu'aurait été ma vie si un jeune chasseur, aux yeux bridés, n'était pas passé par là, attiré par un vol d'outarde? C'est donc l'arrivée de Almanda, Koukoum, chez les Siméons. Les Siméons, il faut peut-être expliquer que même si les Indiens Innus avaient été rapidement christianisés, ils avaient surtout été francisés dans la mesure où on leur avait attribué des noms qui, bien sûr, étaient français. Donc ils faisaient partie, si on peut dire, de la colonie française du Québec, puis ensuite de l'État du Québec, dans l'État du Canada. Mais ils avaient été donc, je ne sais pas comment on peut dire, colonisés de fait sur leur propre territoire avec des noms et des territoires eux-mêmes renommés par les colons français. Alors, notre mandat, Almanda, s'installe sur sa terre, sur la terre du nomadisme plutôt, avec Thomas. Et nous allons voir un certain nombre de ces scènes dans lesquelles elle fait connaissance avec la vie des Amérindiens, en particulier la chasse. Mon oncle possédait une carabine, mais ni ma tante ni moi n'avions le droit d'y toucher. Les armes à feu étaient une affaire d'homme dans notre village. Pas ici, pas chez les Indiens. Thomas m'a montré comment charger un fusil, caler la crosse au creux de l'épaule et viser en gardant les deux yeux bien ouverts. Je me suis entraînée à tirer sur la plage. Au bout d'une heure, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec l'arme. « Ah, t'as l'œil, Almanda !» J'ai rechargé la Winchester, visé la pierre qu'il venait de poser sur un rocher et tiré. Elle a volé en éclats et j'ai hurlé de joie. Thomas était fier, il avait vraiment un brin de fierté dans le regard. « Bon, allez, t'es prête pour la perdrix. Il y en a pas mal autour d'ici. » Nous nous sommes mis en marche en longeant la rivière. Nous faisions notre possible pour nous fondre dans la nature et j'essayais de reproduire les gestes lents de Thomas. Je me sentais gauche. Thomas a suivi un ruisseau dont les berges, couvertes d'une mousse spongieuse, absorbaient le bruit de nos pas. Nous progressions sans parler depuis une bonne heure quand un animal a surgi d'un bosquet en battant des ailes avec frénésie. La détonation a résonné et soudain, l'oiseau devenu lourd comme une pierre est tombé sur le sol humide. La scène n'avait duré qu'une poignée de secondes. Thomas, d'instinct, avait suivi avec son arme la trajectoire. Il avait évalué la vitesse de déplacement et fait mouche. Deux secondes d'hésitation et la perdrix se serait échappée. Abattre une bête en plein vol, c'est bien plus difficile que tirer sur un objet inerte. En serais-je capable ? Nous sommes revenus au campement et j'ai plumé et préparé la perdrix. J'avais appris avec les poules à la ferme. Thomas l'a fait cuire en l'étendant sur des branches au-dessus du feu. Voilà, c'était la première scène de chasse et bientôt, en effet, Almanda sera chassée. Voyons un peu la suite. Le jour suivant, nous sommes repartis chasser, vers le sud cette fois, au pied de la montagne. Thomas a tué une perdrix. J'ai tenté ma chance un peu plus tard. Un gros oiseau avait foncé sur nous pour nous éloigner de son nid. J'ai pointé mon arme, mais au moment de tirer, j'ai hésité et la balle a raté sa cible. Le soir, nous avons préparé le repas et mangé sur la plage en regardant le soleil se coucher derrière les sommets déjà blanchis. Dans la tente, étendue sur notre lit, je revoyais la perdrix foncer sur moi. Au lieu de tirer, j'avais cherché à viser. Le temps que j'y parvienne, il était trop tard. Bercée par la respiration régulière de Thomas, je rejouais la scène dans ma tête. Quand je me suis endormie, la perdrix m'échappait encore. Le lendemain matin, notre troisième à ce campement, nous avons tenté notre chance du côté de la petite rivière. Deux jours de repos m'avaient permis de récupérer et je me sentais mieux. Nous avancions au milieu des cris des animaux, mais n'en apercevions aucun, comme s'ils nous fuyaient. Pendant près de 3 heures, nous n'avons en fait vu âme qui vive. Mais nous nous taisions et nous écoutions ce vacarme frustrant de la nature. Parvenus à une petite chute, nous avons traversé la rivière en marchant sur les rochers. Je faisais le moins de bruit possible. Je glissais sur les pierres, je me cognais à des branches. À cause de moi, toute la forêt savait que nous étions là. Bon, après plus de 5 heures de marche, nous sommes revenus vers le campement et nous en approchions quand une perdrix a surgi entre les arbres. Certaine de la rater encore, j'ai jeté un coup d'œil rapide à Thomas qui n'a pas bronché. Alors j'ai mis ma Winchester en joue et en traçant la ligne, comme pour suivre la ligne de la proie qui s'éloignait, j'ai appuyé sur la détente. Le coup de feu a résonné dans mon oreille et la balle a foudroyé l'oiseau en plein vol. Mon pouce est emballé, mais je suis restée paralysée, l'arme toujours pointée vers l'endroit où, un instant plus tôt, la perdrix volait. Thomas a posé sa main sur mon épaule, puis il est allé chercher mon trophée, une prise de belle taille, plus grosse que celle que nous avions rapportée les jours précédents. J'ai ressenti une fierté d'adolescente m'envahir. Ah, nous avons retrouvé le campement et préparé le gibier. Voilà, j'aimais le sourire de Thomas qui illuminait son visage et cette lumière qui brillait entre les fentes étroites de ses paupières. On repart demain, il nous reste bien du chemin pour rejoindre les autres. Je me suis demandé combien de temps nous serions demeurés à ce campement si je n'avais pas tué la perdrix. Le temps qu'il fallait, j'imagine. Alors, c'était une scène de chasse et nous allons maintenant passer à une scène de navigation puisque, comme on l'avait dit tout à l'heure, les Amérindiens, les Innus en particulier, passent beaucoup de temps dans leur vie de nomade sur les rivières, dans leurs canots, à aller d'un endroit à un autre. Les passes dangereuses. Chaque coup de rame m'éloignait d'une vie et me plongeait dans une autre. Moi qui avais la parole facile, j'apprenais à écouter ce monde à la fois nouveau et ancien et à m'y fondre. La rivière Péribonka, qui arrive au lac, elle monte presque en ligne droite vers le nord. Les feuilles rouges et jaunes jettent des touches de couleur dans les crins de verdure. Et moi, au fur et à mesure que la température baissait, que les feuilles rougissaient, que l'eau prenait des teintes d'un bleu profond, je devenais Innu. Quand Thomas me sentait fatigué, nous nous arrêtions un jour ou deux. Je découvrais comment installer des filets pour attraper le poisson, comment porter le canot sans me blesser, comment marcher sans bruit. Petit à petit, mon corps, autant que mon esprit, s'adaptait au mouvement quotidien de l'existence nomade. Au fil des jours, la notion même de temps devenait diffuse. Mais chaque matin, la fraîcheur de plus en plus mordante de l'air nous rappelait que nous approchions de notre but. On entendait les passes dangereuses bien avant de les voir. L'écho de leurs cris, sortis du ventre de la terre, se réverbérait dans les montagnes et courait dans la forêt. Le vacarme était de plus en plus violent, et même encore à quelques dizaines de mètres de la chute, on sentait l'air se charger de ces exhalaisons, mouiller la végétation. Peu à peu, à travers le crachin, apparaissait enfin la bête. Le dragon hurlant sa fureur, qui se précipitait sur les rochers, en laissant derrière lui un maelstrom terrifiant. Tout un lac qui se jetait dans le vide, avec un fracas qui glaçait le sang. « C'est beau, hein ?» Thomas devait crier. Je ne sais pas, c'est plutôt effrayant. « Eh oui, il faut craindre la puissance de la rivière et la respecter. » La peur tétanise, la crainte incite à la sagesse. Ça aussi, je devais l'apprendre. Thomas a dirigé le canot vers la rive. « On va dormir plus haut. Demain, on entrera dans le bois. » Et il y avait dans sa voix comme une pointe de fébrilité. Nous avions atteint le territoire des Siméons. Tu veux pas reprendre ?
Sinon.
Alors, je vais laisser Françoise essayer pour l'arrivée au campement.
Quand nous avons atteint le campement d'hiver, les hommes étaient dans le bois et les femmes occupées à tanner une peau de caribou. Les tentes, assez éloignées les unes des autres, formaient un hameau posé au sommet d'une colline surplombant le lac. Un lac. Les sœurs de Thomas, Christine et Marie, nous ont accueillis avec chaleur. Marie a servi du thé. Christine, qui parlait un peu français, s'est assise près de moi et m'a demandé comment s'était passé le voyage. J'ai essayé, tant bien que mal, de lui expliquer le sentiment de liberté qui m'emplissait depuis le moment où nous avions mis notre canot à l'eau. Ma belle-sœur a vu le bonheur sur mon visage et dans le regard de son frère. L'amour est une chose qu'on comprend tous, peu importe la langue dans laquelle il s'exprime. La chaleur que Christine me témoignait apaisait mes craintes d'étrangère qui débarquait dans un clan tissé serré. Le fait qu'elle et les autres m'aient accepté aussi facilement montrait l'ouverture d'esprit des Siméons. Je n'ose imaginer la réaction des habitants de Saint-Prime si Thomas et ses cheveux longs avaient fait irruption dans la vie du village. Pendant que nous discutions, Thomas entreprit de monter notre campement pour l'hiver. Il a coupé de petits sapins, les a nettoyés de leur feuillage avec sa hache, puis en a aiguisé les extrémités pour en faire des poteaux. Quand nous avons eu fini de boire le thé, Marie m'a entraînée en me tirant par la manche. Je me suis installée entre elle et Christine, devant les restes du caribou. Elles avaient d'abord retiré la peau de l'animal avec du silex et l'avaient suspendue. Ensuite, avec une côte d'orignal et beaucoup de patience, elles avaient gratté jusqu'à ce que la graisse s'imprègne dans les tissus. Puis elles avaient étendu la peau sur un cadre de bouleau pour la faire sécher. Et à la fin, elles l'avaient enduite de gras, de castor et plongée dans l'eau bouillante. Pour l'étape du tannage, mes belles-sœurs avaient préparé un feu dans lequel elles avaient jeté une souche mouillée et de l'écorce de pin rouge pour que ça boucane et que l'épaisse fumée imperméabilise la peau. J'ai appris, je vais te le laisser passer.
Oui, je vais reprendre la suite. J'ai appris en les observant comment faire tout cela moi-même. Combien de peaux ai-je ensuite transformé dans ma vie, je ne saurais le dire. Mais en découvrant les gestes lents et assurés des sœurs Siméon, comme une enfant, je m'initiais à un savoir ancien. Avant la tombée du jour, Thomas avait fini de monter la tente, qu'il avait disposée un peu à l'écart, sur un versant donnant sur le lac. « La plus belle vue !» a-t-il dit en souriant. Rectangulaire, assez haute pour qu'on puisse se tenir debout, elle ne paraissait guère plus grande que la cuisine de la maison où j'avais passé mon enfance. Sur le sol, un tapis de sapinage frais embaumait l'air. Il avait placé au centre le poêle qui nous servirait autant à faire à manger qu'à nous chauffer. Mais je préférais ne pas trop penser à l'hiver, il viendrait bien assez vite. Marie, Christine et moi avons terminé de tanner les peaux. Puis, pendant que Marie s'occupait de préparer le dîner, Christine a sorti sa carabine. « Viens, on va chasser !» J'ai pris la Winchester et des balles et je l'ai suivie. Christine se déplaçait avec la même lenteur que Thomas. On pense que marcher, comme respirer, est ce qu'il y a de plus simple à faire. Après tout, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Mais dans le bois, cela exige beaucoup d'adresse, car le moindre bris effraie le gibier. Avec le temps, on apprend où, comment, quand déposer le pied. Quel rythme adopter ? À cette époque, même si j'essayais de me fondre dans la nature, ma maladresse faisait fuir les animaux, et ça m'enrageait. Si je n'arrivais pas à faire cette chose si élémentaire, je ne serais d'aucune utilité. Ma belle-sœur ne montrait aucun signe d'impatience, le doigt sur la détente, laissant sous aiguet, le regard dansant de gauche à droite, elle marchait toujours du même pas régulier. Nous sommes arrivés devant un lac sur lequel s'était posé un groupe d'outardes. Nous nous sommes approchés. Quand les oiseaux ont commencé à s'inquiéter et à s'animer, Christine a mis sa carabine en joue. Je l'ai imitée. Elle a tiré et j'ai fait feu à mon tour. La masse bruyante s'est soulevée, formant une immense et magnifique voûte qui a obscurci le ciel. J'ai rechargé ma carabine en vitesse et au moment où j'allais appuyer à nouveau sur la détente, Christine a placé sa main sur le canon. « Non, on en a assez pour aujourd'hui. » Les outardes se sont éloignées et leur vacarme s'est dispersé peu à peu. Ma belle-sœur s'est avancée dans l'eau et a grippé par le cou trois oiseaux qui y flottaient. « Tu en as eu deux, » dit-elle en souriant. « Qui t'a appris à viser comme une inou ?» Voilà, donc, en effet, pour la chasse, Manda, donc Koukoum, est déjà inou. Et elle le devient de plus en plus au fil de la saison, au fil du moment où la neige tombe. Des flocons lourds descendaient du ciel avec lenteur, comme s'ils hésitaient. L'hiver s'annonçait à petits pas. Devant cette nature pure et indomptée, je me sentais minuscule. Et pourtant, j'avais de plus en plus le sentiment d'y trouver ma place. Je regardais la neige tomber sur la forêt encore endormie. Puis j'ai préparé le thé, et comme chaque matin, avec mes belles-sœurs, nous sommes allés faire le tour des collets. Eh oui, le piégeage, c'est encore une façon de faire la chasse. Ma belle-sœur nouait les fils de métal et les dissimulait pour ne pas trahir leur présence, et surtout, elle ne touchait pas aux pistes laissées par les lièvres. Ce matin-là, deux s'y étaient pris. La journée commençait bien. Le travail quotidien, la trappe, la chasse, les bêtes dont il fallait recueillir la viande et la fumée, les pots à conserver, occupaient nos journées. Mais le soir, quand je retrouvais la solitude de ma couche, je retrouvais Thomas. Et lui, il chassait de plus longues journées, parfois même des semaines. Une fois, quand il est rentré, chargé de pelleterie avec son frère et son père, je lui ai dit que la prochaine fois, nous partirions ensemble. « On verra, » Almanda. « Non, non, c'est décidé, Thomas. » Ça l'a fait sourire de me voir aussi buté. « C'est dur, plus haut vers le nord. Faut marcher longtemps. Faut vite préparer les pots. » « Oui, je sais, je commence à savoir qu'on ne se tourne pas les pouces, au campement non plus d'ailleurs. On travaille autant. Et je t'ai suivi ici, mais pas pour vivre séparé de toi. Donc la prochaine fois, nous irons ensemble. » Il a secoué la tête, sa manière de baisser pavillon. Et j'ai plongé mes doigts dans ses cheveux. Voilà, c'était d'accord. Donc au fur et à mesure du temps, comme on vient de le voir ici, Manda s'habitue à la vie amérindienne, s'habitue à la vie inoue. Elle participe à ce qu'on appelle les grandes chasses, où comme on vient de le voir, la majorité des hommes surtout participent. Elle va donc participer à des grandes chasses, participer à la chasse des grands animaux. On a vu tout à l'heure les orignales. Alors, je crois quand même qu'on dit les orignales, hein, même si ça se termine par à elle. Ces grands ruminants donc, qui vivent dans le nord canadien. Et puis, elle va participer à tous les déplacements nomades de la tribu. Et nous revoyons le transport nomade donc sur la rivière Péribonka. Quand les vagues nous chahutaient trop, il fallait surtout éviter de s'accrocher au rebord du canot, ce qui l'aurait aussitôt fait chavirer. Nous devions alors lever les bras en tenant la rame au-dessus des épaules pour le stabiliser. Parfois, le canot plongeait et la rivière semblait sur le point de nous engloutir. Chaque fois, mon cœur se serrait. Mais l'embarcation se redressait et poursuivait son chemin sur les flots exubérants. Le bruit des vagues sur la coque imitait le son d'une main frappant un tambour et rythmait notre danse sur l'eau. Cette fois-ci, il nous a fallu 7 jours pour arriver à l'embouchure de la rivière Manouane. Je découvrirai plus tard ce somptueux cours d'eau qui se ferait un chemin entre les vertigineuses falaises de granit noir jusqu'à un beau lac entouré de collines vertes. Nous appelions cet endroit la Fourche Manouane et plusieurs familles s'y arrêtaient quelques jours ou même quelques semaines. Nous nous sommes installés, comme d'autres, sur une pointe de sable. C'était la première fois que je voyais autant d'Innus réunis dans un même endroit, à part le village de Pointe-Bleue où nous étions partis. Après des mois de vie isolée en territoire, il faisait bon se retrouver dans un petit village de tentes. Les gens riaient, les enfants couraient, jouaient ensemble. Je reconnaissais quelques visages croisés l'été précédent. Certains avaient assisté à notre mariage et semblaient heureux de me revoir. Ces retrouvailles chaleureuses prenaient une signification particulière pour moi, dont la blondeur des cheveux et le bleu des yeux rappelaient à tous mes origines. Au fil des mois, j'avais appris l'Innu, mais difficilement. Thomas et sa famille connaissaient mes difficultés et s'appliquaient à s'exprimer lentement. Dans l'ambiance générale de kermesse de la Fourche Manouane, les gens parlaient beaucoup trop vite pour que je saisisse tout. Quelquefois, je perdais le fil de la conversation et je me contentais de rire. Le rire, tous les Innus le comprennent. Voilà, tous les Innus comprennent le rire, mais ce rire des Innus, bien hélas, en poursuivant le livre de Michel Jean qui s'appelle Koukoum, on verrait que ce rire des Innus, il disparaît peu à peu, puisque la civilisation Innu et tout ce qui fonde son fonctionnement disparaît également. On l'a vu tout à l'heure avec le « avant les barrages », on le reverrait avec l'installation des usines de pulpe de bois pour fabriquer le papier. À l'heure actuelle, le Québec vit sous les fumées des usines Alcan, les usines d'aluminium, et en effet, les usines de papier qui sont un peu partout. Quand vous vous mouchez dans un Kleenex, sachez que vous polluez le Québec. Bon, on va tâcher de finir sur une note un peu moins noire et puis on va finir surtout sur le générique habituel de l'émission et on se retrouvera les semaines prochaines avec d'autres livres des Amériques, du Festival America et des livres ou bien québécois ou bien traduits de l'anglais. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.